professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment est-ce qu'on peut programmer avec le temps? Qu'est-ce que l'Airbus et une partition peuvent avoir en commun? Comment l'ordinateur peut-il se synchroniser avec un musicien qui joue ou un chanteur? Pourquoi la capacité d'anticipation des musiciens est-elle si importante? Nous voici au terme de la grande série « Musique, sons et signes » que le compositeur Philippe Manoury, titulaire de la chaire annuelle de création artistique, a proposée au Collège de France cette année. Son exploration des relations entre temps et musique s'achève par un séminaire en compagnie de deux grands chercheurs en informatique, Gérard Berry, titulaire de la chaire « Algorithmes, machines et langages », qui a présenté le compositeur lors de sa leçon inaugurale, et Archia Comte, chercheur à l'IRCAM, qui développe le système Antescofo pour l'interprétation de pièces mixtes homme-électronique, amplifiant l'idée que l'électronique doit être finement dirigée en temps réel par les hommes. Philippe Manoury, justement, l'un des pionniers dans la recherche et le développement de la musique avec électronique en temps réel à l'IRCAM, professeur émérite de l'Université de Californie à San Diego, nous met en présence de deux chercheurs avec lesquels il échange et travaille en étroite collaboration. Au journal Les Échos, en 2014, Gérard Berry rappelait, et je le cite, que les musiciens s'intéressent à l'informatique depuis longtemps. L'Institut de recherche et coordination acoustique-musique, l'IRCAM, créé en 1969 par Pierre Boulez, associe d'un côté informaticiens, mathématiciens et artistes, de l'autre recherche, composition et concert. 45 ans plus tard, l'IRCAM reste le plus grand centre d'informatique musicale au monde. L'informatique musicale est musicalement et scientifiquement passionnante, nous dit Gérard Berry. Et les proies s'y sont nombreuses. L'étonnant logiciel Antescofo, beaucoup utilisé en concert, permet à la musique informatique de s'adapter au tempo et à la façon de jouer des instrumentistes, au lieu de forcer les hommes à suivre la machine comme auparavant. Tout musicien amateur appréciera que l'accompagnement enregistré suive son jeu en temps réel, et nous en aurons la démonstration. Le logiciel OMAX, quant à lui, enfin, permet à l'ordinateur d'analyser en temps réel la structure d'une improvisation musicale, puis d'improviser en interaction avec les musiciens. C'est le logiciel Antescofo que nous allons découvrir en particulier aujourd'hui, et la démonstration de cette interaction entre musicien amateur ou prodige et la machine est tout simplement bluffante. Archia Comte, dans une interview au Monde en 2015, précise, et je le cite, quand plusieurs musiciens jouent ensemble, chaque musicien a des tâches précises à réaliser en temps réel, mais doit coordonner ses actions avec les autres musiciens. Ils arrivent à s'écouter et à se synchroniser pour jouer un quatuor de Mozart par exemple. L'œuvre est écrite sur une partition et c'est toujours la même œuvre qu'on écoute. Mais à chaque exécution, c'est toujours différent et pourtant c'est sans faute. Et même s'il y a des fautes, le concert ne va pas s'arrêter pour autant. Cette capacité à s'écouter les uns les autres, se coordonner et se synchroniser avec une tolérance incroyable aux variantes, aux erreurs même, c'est une capacité humaine extraordinaire qu'on aimerait donner à la machine. Voilà pourquoi la capacité d'anticipation est si importante. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 16 juin 2017 pour le séminaire de Philippe Manoury, aujourd'hui, problématiques liées au temps réel dans la musique.
Grâce au travail de quelqu'un que j'ai le plaisir d'accueillir, qui est Archia Comte, qui est un grand spécialiste, donc, qui a fait l'auteur de ce programme Antescofo, sur lequel on travaille, beaucoup de gens travaillent. Archia Comte va nous parler, entre autres, je pense, d'un élément que je n'ai pas eu de parler pour cause, parce qu'il va le faire mieux que moi, et qui est très important dans cette idée du temps réel, c'est comment est-ce qu'un ordinateur peut suivre une partition, un suivi automatique. Comment est-ce que l'ordinateur peut comprendre comment joue un instrumentiste et comment se synchroniser automatiquement avec lui. Donc je laisse la parole à Archia et ensuite j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir le monsieur grâce auquel j'ai pu faire ce cours ici, qui est Gérard Berry, que tout le monde connaît puisqu'il est le professeur d'informatique dans cette maison. Et c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Gérard qui va commencer, avec grand plaisir. Et donc, Gérard, c'était quelque chose de très intéressant, parce que, bon, je pense que vous le connaissez, mais c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'aéronautique, il a étudié des systèmes, il a fait un langage qui s'appelle STL, qu'on appelle langage synchrone, il me l'expliquera mieux que moi, de toute façon, mais un jour, il est venu, je crois qu'ils se sont rencontrés avec Archia, et puis ils ont trouvé qu'entre faire voler un Airbus et puis faire du suivi de partition, eh bien, si les buts ne sont pas les mêmes, mais il y a une approche qui peut être intéressante, et c'est avec grand plaisir qu'on a pu voir Gérard qui se joint très souvent à nous à l'IRCAM et avec lequel on a des discussions très fructueuses. Et Gérard, je te laisse la parole.
C'est un grand plaisir de faire un séminaire dans le cours de Philippe Manoury. C'est un petit renvoi à l'ascenseur, comme il dit, parce qu'il avait fait un séminaire dans mon cours déjà, et j'avais donné 2 ans de cours sur un sujet qui n'est pas du tout étranger à ce qu'on raconte là, qui était le temps et les événements en informatique. Et je vais vous montrer que ce qu'on a fait depuis les années 1982, précisément, c'est quelque chose qui est comment contrôler le temps dans les systèmes très nombreux qui existent, qui parlent du temps. Alors l'informatique classique, on parle pas du tout. Si vous prenez un langage de programmation habituel, il y a rien qui parle du temps dedans. Et en général, on s'intéresse qu'à une seule forme de temps, je dirais, dans l'informatique classique, c'est le temps de calcul. Combien de temps ça va mettre à répondre ? Nous, ce qu'on voulait faire, c'était pas du tout ça. C'était dans des domaines beaucoup plus riches, quelque part, que l'informatique classique, qui est comment est-ce qu'on conduit une voiture, comment on fait voler un avion, qu'est-ce que c'est qu'un circuit électronique. Et donc, c'est un domaine où il y a 3 équipes françaises, maintenant plus que ça, qui ont été vraiment leaders mondiaux du sujet, ils sont toujours. Et on a construit une industrie aussi qui est leader mondial du sujet. Donc je vais vous montrer des choses, et quand vous prenez un avion moderne, eh bien, sachez que c'est avec ça que vous volez. Et on s'était juste pas aperçu qu'on faisait de la musique. Alors en fait, on s'en était un peu aperçu, parce que parmi mes premiers exemples, il y avait de la musique, mais un peu plus au clair de la lune que ce qu'on vient de voir. Et ensuite, j'ai rencontré Archia, où il est venu à mon cours, en fait, un de mes cours. J'ai donc parlé 2 ans de ça, mais j'avais fait en 2009-2010, j'avais fait sur la chaire annuelle informatique et sciences numériques, des cours où j'avais rencontré Archia, où je parlais un peu de ça. J'ai développé pendant 2 ans, et bientôt, j'espère, il y aura un livre sur le sujet. Et là, on a commencé à s'apercevoir que, ben oui, faire de la musique, faire voler des avions ou faire des circuits électroniques, c'est exactement la même chose. Ce qui n'est pas complètement évident. Sauf que savoir faire voler un avion, ça apprend pas forcément à faire de la musique, ni l'inverse. Mais la base mathématique, la base conceptuelle est la même. Alors, je vais essayer de vous expliquer de la façon la plus stupide possible, qui est ma façon normale de travailler, pourquoi c'est vraiment intéressant comme sujet et pourquoi il faut avoir des idées iconoclastes et totalement triviales pour arriver à faire quelque chose de vraiment intéressant. Alors, tout ça est né en 1982. Alors, 1982, l'informatique, ça existait à peu près pas, hein, il n'y avait pas grand-chose. Mais nous, on avait un laboratoire dans lequel, à Sophia Antipolis, dans lequel il y avait 2 sortes de chercheurs. A priori, qui ne se causaient pas à l'époque, c'était les automaticiens, ceux de la théorie du contrôle, et les informaticiens. Et notre but initial, c'était de faire rouler une petite voiture sur un circuit. Le circuit n'est pas connu à l'avance. La petite voiture a le droit de faire un tour de reconnaissance, et après, elle doit faire 2 tours le plus vite possible. C'était le concours d'un journal qui s'appelle Microsystème, qui a disparu, avec les microsystèmes correspondants d'ailleurs. Et alors c'était très intéressant, et nous on avait une voiture absolument fantastique, qui avait des accélérations de feu, des freins à disque, une tenue de route phénoménale, et qui était extrêmement bien réglée pour les virages. et parce qu'on n'avait pas un grand labo. Et manque de chance, le jour de la compétition, c'était une grande ligne droite avec très peu de virages. Donc là, la voiture était trop puissante, elle partait à fond, et puis on disait, là, elle avait une sécurité pour ne pas se cracher dans les murs quand elle sortait de la piste. Et voilà. Donc on a quand même terminé seconde la course, et on a eu le record du tour. Et il faut comprendre que c'est comme en musique, ça, les événements inconnus dans les concerts peuvent avoir des conséquences positives. On a été battu par une bagnole faite par des gamins de 13-14 ans, donc ça c'est très difficile à battre, qui allait à vitesse constante, complètement analogique, qui allait à vitesse constante le nez par terre, alors que la nôtre, elle allait beaucoup trop vite pour la piste. Mais heureusement, il y a un photographe qui a pris, elle regardait le parterre avec des diodes, et il y a un photographe qui a pris une photo au milieu de la ligne droite pendant le tour de reconnaissance, et là où elle a battu le record du tour, c'est elle est partie à fond, en plein milieu de la ligne droite, elle a freiné un grand coup, elle a fait tchac-tchac, ça c'était le flash, elle avait enregistré le flash, et dit, il y a un truc bizarre là, elle est repartie, elle a battu le record du tour. Mais ça nous a appris beaucoup de choses. Ça nous a appris que le temps, c'est pas du tout ce qu'on croit. Et là, vous avez vu que Philippe parle du temps comme d'un objet éminemment mobile, qu'on peut prendre par plein de bouts différents à la fois. Le temps, la seule certitude qu'on a, c'est qu'il passe. Hein? Et nous, on ne le comprend pas. Notre tête a beaucoup de mal avec le temps. D'ailleurs, les musiciens en profitent beaucoup. Par exemple, le contrepoint, ça nous pose beaucoup de questions sur le temps, hein, à l'écoute. Et le vocabulaire est complètement incapable de parler du temps. On dit à tout bout de champ, sur le champ, ça c'est le laboureur. On dit le temps passe vite, ce qui au niveau des unités physiques, c'est un nombre pur. Le temps passe vite, puisque c'est en seconde par seconde, donc ça n'a pas de sens, etc. Et donc c'est très intéressant de comprendre que nous, on ne comprend pas le temps, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les neuroscientistes nous apprennent que nous sommes pleins d'horloges à l'intérieur de nous. Dans le cerveau, il y a beaucoup, beaucoup d'oscillateurs, des horloges. Dès que vous commencez à marcher, vous avez une horloge à 8 Hz qui se met à régler beaucoup de choses, en particulier non pas les pas, mais la compréhension de l'endroit où vous êtes. Ça, c'est un des derniers prix Nobel de biologie, ça n'existe pas. Donc, on a fait un langage, c'est vrai, je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble pas du tout à ce qui était connu. Et coup de chance, le langage avec lequel on va enseigner aux enfants maintenant, qui s'appelle Scratch, qui est un langage très joli, et ben c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, par hasard, les gens ont retrouvé ça pour l'enseignement aux enfants. Alors, il faut comprendre ce que c'est que le parallélisme. Et là, il y a un truc en plus par rapport à mon cours que je viens d'apprendre effectivement de Philippe là maintenant. Le parallélisme, c'est les choses qu'ils font en même temps. Alors, il n'y avait pas ça en informatique au début, parce que l'informatique, c'est né avec un mathématicien et un crayon. La machine classique, l'ordinateur classique, c'est l'imitation du mathématicien avec un seul crayon qui fait une chose à la fois. Alors, c'est vite tombé, mais quand on fait voler un avion, il a deux ailes, il a des réacteurs, il a des roues, il a et tout ça, on ne les fait pas marcher une par une. Hein. La physique, ça marche partout en même temps. Donc, on est forcé d'avoir du parallélisme. Et puis là, dans cette salle, on a du parallélisme. Et sur Internet, on a plusieurs milliards d'ordinateurs branchés. Donc, l'idée qu'on fait une seule chose à la fois a totalement disparu. Mais il y a un principe fondamental que toute théorie, tout modèle mental, physique, technique, mathématique doit respecter. C'est le principe de compositionnalité. C'est-à-dire que si vous prenez trois processus parallèles PQR, on appelle ça des processus, vous pouvez avoir des discussions entre ces processus. C'est par exemple, P peut envoyer un message à Q, Q peut calculer en fonction de ce message, et Q peut envoyer un message à R. Eh bien, à tout moment, on doit être capable de tirer un trait autour de P et Q et de dire que la seule chose qui s'est passée, en fait, à ce niveau d'observation, c'est une communication entre P parallèle Q, considéré comme un seul objet, et R. On fait ça tout le temps. Par exemple, quand Renault discute avec Bosch, ça commence par Renault Paris envoie un message à Renault je sais pas où, qui va discuter à Bosch, mais quand on regarde ça à l'extérieur, c'est Renault qui a parlé à Bosch, on ne veut pas savoir qui est à l'intérieur de Renault. Donc on veut parler à n'importe quel niveau de hiérarchie. L'informatique, c'est entièrement fondé sur la hiérarchie de tout. C'est pour ça que c'est très différent de la biologie, par exemple, qui a plus de mal avec ça, pour des bonnes raisons. Si on regarde l'équation au temps réel, ça, c'est de la physique de comptoir que je vous fais. Hein. C'est pas très sérieux, mais c'est suffisant. Ça met un certain temps T. Q, il calcule pendant un certain temps. Là, ça met un certain T prime. Et le temps global que ça met, c'est T secondes. Et T secondes, c'est très facile à définir. T secondes égale T plus J plus T prime. Mais ce qu'on veut, pour que ce soit complètement hiérarchique, c'est qu'on ne change pas la nature du temps, la nature profonde de ce que c'est que le temps, qu'on compte les morceaux un par un, ou à une plus grande échelle. La notion de temps ne doit pas changer. Sinon, on ne comprendra rien dès qu'on a des systèmes un peu compliqués. Donc, ça veut dire que le temps doit être la même chose, que tous ces temps doivent être à peu près du même style de temps. Vous allez voir qu'il y a plusieurs styles de temps. Et donc, ça veut dire qu'un temps doit être à peu près la même chose qu'un temps plus un temps. Internet, c'est comme ça. Quand vous envoyez un courrier électronique, vous avez un morceau du courrier qui va passer par le Japon pour aller aux États-Unis, l'autre qui va passer par l'Allemagne, l'Italie, etc. Et ils mettent un temps quelconque, mais votre courrier finira par arriver à un bout d'un temps quelconque. Mais vous ne savez pas par où c'est passé. Donc il faut être capable de faire ça tout le temps. Il y a trois solutions à l'équation. T est à peu près pareil que T plus T. Et ça, c'est fondamental. Il y en a trois et pas plus. S'il y en a une, c'est infini, mais ça ne nous intéresse pas. Il y en a trois. La première, c'est le temps est arbitraire. Donc pourquoi ? Parce que arbitraire plus arbitraire, ça fait arbitraire, il n'y a aucun problème. Ça, c'est ce qu'on a vu sur les chaînes de Markov. Quand dans une chaîne de Markov, il y a des probabilités, donc les événements vont se répéter parce que ça ne peut pas être à probabilité zéro, bon, ça, c'est des probas, mais on ne sait pas quand. Donc on ne sait pas quand, plus on ne sait pas quand, c'est on ne sait pas quand. Donc ça, c'était la dernière partie du concert. OK. Alors nous, on évite ça pour les avions, hein, parce que quand on dit « tourne à gauche », on a envie de savoir quand. Mais en musique, ça a du sens. Donc nous, et là, j'ai rayé, mais pour nous. Il y en a une autre, c'est 0 plus 0 égale 0. Alors 0 plus 0 égale 0, c'est super pratique pour calculer. Hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. La base 0 tout seul, c'est au poil. Et ça, c'est un temps qui est extrêmement connu. Ça s'appelle la mécanique newtonienne. L'attraction dans la mécanique newtonienne, l'attraction entre le Soleil et la Terre, qui est une information qui circule, si on veut, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire, dans la mécanique newtonienne, il n'y a pas de temps. Quand vous calculez où va aller la Terre, où va aller le Soleil, dans ce calcul, il n'y a pas de temps. Donc ça, c'est très bien, mais on nous a répondu « Oui, mais ça ne peut pas exister, le temps nul. » Bien sûr que si, ça peut exister, vous allez voir pourquoi. Et puis, il y a un autre temps, c'est le temps prévisible, qui est la vibration. Et ce temps prévisible, lui, il est très physique, mais Newton aussi, c'est très physique. Il y a Einstein qui a dit ça marche pas, la relativité, mais quand vous jouez au billard, hein, vous jouez avec Newton, pas avec Einstein. Hein, sinon, le temps que vous ayez fait des calculs, la partie, elle est finie. Hein. Le troisième temps, c'est la vibration. Et qu'est-ce que c'est qui vibre ? Par exemple, en ce moment, le son. Par exemple, la lumière, ça vibre, c'est une vibration, la lumière. D'accord ? Donc, il y a ces trois temps, asynchronie, synchronie, vibration. Alors, dans mon métier, celui-là, on jette. Ah non, c'est dans cette partie-là, parce que j'ai aussi travaillé sur l'autre, mais quand on fait un avion, un circuit, etc., circuit, ça tourne pas. Encore maintenant, c'est un peu changé, mais quand on dit ça tourne à 1 GHz, ça veut dire que ça fait 1 milliard d'opérations par seconde régulièrement. Bon, c'est plus tout à fait comme ça, mais c'est pas grave. Donc, c'est ces deux-là qui vous intéressaient. Et donc, nous, on a dit... Alors, ce qui embêtait les informaticiens et les musiciens, c'est ce que raconte... pourquoi on ne pouvait pas faire de temps réel avant ? Ben, tout simplement parce que les machines n'allaient pas assez vite. Parce qu'on ne peut pas faire du temps nul, mais on peut approximer suffisamment le temps nul. Les neurosciences nous disent que si deux sons sont séparés de 15 millisecondes, on est absolument sûr qu'on ne saura pas lequel des deux est arrivé avant. Vous pouvez faire ça avec des aiguilles. Vous plantez deux aiguilles... en même temps, il ne faut pas faire ça à la main, il y a des expériences pour ça, vous plantez deux aiguilles dans les deux jambes, eh bien, si l'intervalle de temps est assez long, vous sentez dans votre cerveau tic-tic, et s'il est suffisamment court, vous sentez un seul tic. Et c'est brutal. Donc ça, c'est le système nerveux qui fait ça, on n'y peut rien. Donc le système nerveux a un mécanisme d'abstraction qui fait, quand c'est trop petit, je dis que c'est zéro. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors, arbitraire, c'est non déterministe partout. On l'a vu hein, dans le concert, les pianistes sont non déterministes, ce qui ne doit pas être si facile. Et donc, pour nous, c'était interdit. Nul, c'est déterministe. C'est complètement déterministe. La mécanique newtonienne, c'est complètement déterministe. Et prévisible, c'est un peu entre les deux. Et on va voir qu'il y a justement, c'est la grande force de tout ça. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas d'informatique. Du tout. Parce que les circuits, ça marche comme ça. Alors, voilà l'exemple parfait. C'est le concert. Donc vous avez ici des instrumentistes et des spectateurs. Eh bien, pendant le concert, vous négligez la vitesse du son. Voilà. Pourtant, vous n'entendez pas tous en même temps, mais vous êtes persuadés que vous entendez tous en même temps. Mais ce n'est pas vrai, regardez les haut-parleurs où ils sont et tout. Vous négligez la vitesse du son. Mais les acousticiens, ceux qui règlent la salle, eux, ils ne la négligent pas. Donc il y a deux populations différentes, et il y a deux façons différentes de voir la même chose, zéro ou pas zéro. Mais heureusement, quand on écoute la musique, on s'occupe plus des acousticiens. Ça, c'est la grande force. Et dans les circuits, par exemple, quand on vous dit votre circuit tourne à 1 GHz, les électroniciens ont dit, si tu le mets à 1 GHz ou plus lentement, c'est exactement comme si tu disais qu'il fait tout en temps zéro. C'est exactement la même chose. Donc, s'il n'y aurait pas d'informatique, si on ne sait pas faire ça. Alors, nous, on dit, bon, ben, très bien, mais alors, ça change la pensée. Alors, mais quand on change la pensée, il faut changer le langage. Alors, comment est-ce qu'on peut programmer avec le temps? Alors, il y a deux exemples intéressants. Avec les deux, vous comprenez tout. Alors, il y a ceux qui ont suivi mes cours, qui sont évidemment pas très nombreux ici, les ont déjà vus environ 12 fois. Le temps, d'abord, n'est pas... Les gens pensent que le temps, c'est la seconde. Non, c'est beaucoup plus riche que ça. Donc, voilà un exemple. Vous allez courir sur un stade, OK? Vous faites ça tous les matins, c'est connu. Et puis, vous allez regarder le nombre de temps que vous avez. C'est vraiment beaucoup. Vous avez la seconde. C'est un temps, bon, ok, c'est à peu près le seul qu'on connaît, le seul des physiciens. Après, vous avez l'heure, pas très compliqué, c'est 3600 secondes, encore que pour définir la seconde, il y a des bouquins comme ça, hein. Mais bon. Puis après, vous avez un truc un peu plus bizarre, c'est le matin. Alors le matin, c'est un temps, ça se répète tous les matins, il y a un matin, donc c'est du temps, mais c'est pas régulier en nombre de secondes. Hein, la définition de potron minet, on ne l'a pas au pavillon des poids et mesures. Puis vous avez le mètre. Quand vous avancez, vous parcourez des secondes dans le temps, mais vous parcourez des mètres. Et il n'y a pas de différence entre les mètres et le temps. Par exemple, vous pouvez dire courir 10 mètres ou courir 10 secondes, c'est la même phrase. C'est juste la notion de temps qui change. Alors Philippe, il profite de ça honteusement. Hein. Dans tout ce qu'il explique depuis le début, il vous explique qu'il y a le temps de la partition, le temps de l'interprète. C'est exactement ça. Il y a les mètres. L'interprète joue sur des mètres et dans la partition, il y a marqué des secondes. Mais l'interprète, il se fout des secondes, il joue sur des mètres en essayant que les mètres ne soient pas déconnants par rapport aux secondes. Alors après, vous en avez d'autres. Vous avez le tour de piste, mais ça, c'est un multiple des mètres. Puis vous avez le pas. Ben oui, courir 10 pas, courir 10 mètres, courir 10 secondes, c'est la même phrase. Donc les pas aussi. Donc tout ce qui se répète dans le temps est un temps en soi. Et puis vous avez les battements de cœur. Et les battements de cœur, c'est le temps primordial pour nous. C'est pas étonnant que la musique soit aux alentours de 60. Quand on dit, là, quand on ouvre un truc de musique, il y a d'abord 60 qui s'allument. Hein. Pourquoi? Parce que c'est notre cœur, ça. Donc très bien. Puis vous avez des temps beaucoup plus bizarres, comme les infarctus. Les infarctus, c'est des temps qui sont des absences de battements de cœur. Donc, ce sont des événements qu'on a... Des battements de cœur, on a envie d'en avoir beaucoup, et les infarctus, d'en avoir pas beaucoup. Alors, voilà, par exemple, comment on programme dans SRL. Il y a d'autres langages d'un autre style, mais je vais vous montrer celui-là, parce que c'est un peu celui-là qui est utilisé dans ce que va vous montrer Archia, hein, ce type. Donc, courir de run, c'est un mot-clé du langage qui dit exécuter ce comportement-là, slowly, que je détaille pas, ça peut être un truc très compliqué. C'est hiérarchique, tout ça, hein. Donc, vous courez doucement, mais ça, c'est infini. Vous courez doucement jusqu'à quand? Ah, ça, c'est extrêmement important. C'est la grande force de ce langage, et ceux qui ne l'ont pas sont embêtés. Donc, vous courez doucement. Vous dites, arrêtez de courir doucement au bout de 100 mètres. Donc, 100 mètres, courez doucement 100 mètres. 100 mètres, c'est un temps. D'ailleurs, à la campagne, on dit à quelle distance est le village, et la réponse est à une demi-heure. Hein? C'est une distance ou un temps, c'est pareil. Donc, vous arrêtez. Alors, ça, c'est vraiment très important. On ne dit pas courir pendant 100 mètres. On dit arrêter de faire quelque chose au bout d'un certain temps. Bon, très bien. Ça dure combien de temps? Ça dure 100 mètres. Et puis, ça s'appelle une préemption. Et puis, après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire pendant 15 secondes, à chaque pas, sauter et souffler en parallèle, qui sont des choses compliquées qui peuvent se synchroniser sur les battements de cœur. Donc, on va jouer avec les temps. Hein, si vous pensez que le temps, c'est seconde, vous n'arriverez jamais à rien. Bon, très bien, ça c'est la séquence, et ça c'est le parallélisme. Bien, alors au bout de tout ça, donc ça, quelle est la durée de ce fragment? La durée de ce fragment, c'est 100 mètres plus 15 secondes, ce qui est un temps. Ensuite, on va courir à fond la caisse. Bon, ça c'est fatigant, donc on va s'arrêter. On va s'arrêter quand? Eh bien, à la fin du tour. On va dire, ben, vous refaites ça à chaque tour, loop each lap, lap c'est le tour, hein, loop each lap. Puis ça, comme vous faites un entraînement de durée finie, vous dites, vous arrêtez tout ça au bout de 4 tours. Donc c'est comme ça qu'on va programmer avec le temps, en considérant que n'importe quelle répétition d'événements constitue un temps. C'est exactement ce que nous a expliqué Philippe depuis le début. Alors tout ça, c'est très bien, mais vous faites ça tous les matins, bien sûr. Donc vous voyez, jongler avec le temps, c'est vraiment drôle. Alors si vous savez programmer et que vous essayez de programmer ça dans votre langage favori, vous revenez me voir dans 2 semaines, hein, qu'on discute du résultat. Il y a aussi un truc dangereux, c'est il y a des moments où il faut faire attention, et dans Tescofo, ça va se trouver, c'est le traitement d'erreur, et il y a un moment dangereux là-dedans, c'est ça, parce que c'est très fatigant, et il faut absolument surveiller le cœur, parce que si vous avez un arrêt cardiaque, hein, il faut tout arrêter pour foncer à l'hôpital. Ok, c'est ça que ça dit. Exit, ça veut dire vous tuez tout ce comportement pour éviter de tuer le coureur. Et eh bien, voilà. Donc ça, c'est un programme, et donc c'est avec ce genre de truc qu'on a fait voler des avions, on a fait énormément de choses différentes avec ça, et c'est industriel maintenant, et c'est la technologie, est une le leader du domaine des programmes de haute sécurité, et bien sûr devenue américaine, pour cause de succès. Ça, c'est une exception. Alors, mathématiquement, comment on dit que ça marche? Alors là, tous nos papiers ont été refusés. Au début, ça a été très simple, parce qu'on a dit, ben, c'est très simple, il suffit que l'ordinateur soit infiniment rapide. Si l'ordinateur n'a pas de temps de calcul, il n'a aucun problème à faire ça. Une autre façon de dire, c'est l'administration, tout ce qui est de l'administration, point virgule, parallèle, etc., ça prend aucun temps. Donc c'est l'administration ultra infiniment rapide. Le rêve, c'est pas comme ça dans la réalité, on le sait bien. Mais si on prend ce rêve, alors les mathématiques deviennent somptueuses. Et alors on va pouvoir réaliser ce rêve, ce qu'on ne pourrait pas faire si on ne le prenait pas. Donc de temps en temps, faire des abstractions impossibles, c'est la bonne méthode d'arriver à faire des trucs qui marchent. Ça, c'est connu en physique. Hein. D'ailleurs, heureusement qu'on n'a pas eu Einstein avant Newton, parce que sinon, on n'aurait pas lancé des fusées. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose de très important, c'est la factorisation, c'est-à-dire le fait que le langage est extrêmement compact. Regardez un truc très simple, un comportement très simple. Vous attendez 2 signaux A et B, et dès que les 2 sont arrivés, vous émettez un nouveau signal O pour l'extérieur, et vous recommencez à 0 à chaque fois que vous avez un signal reset, un bouton reset. Imaginez que c'est des boutons, il faut faire AB pour avoir à manger, et puis il faut faire reset si vous voulez annuler tout. Alors d'habitude, on fait ça avec une structure qui est un automate. Alors les chaînes de Markov sont des automates, avec des probabilités, là il n'y a pas de probabilité. Vous voyez, si vous avez A, vous avez là, si vous avez B, c'est bon, vous émettez O. Si vous aviez les 2 en même temps, vous avez A, là, et OK. Donc ça, les gens comprennent ça très bien. Nous, on l'écrit plus simplement. Pourquoi plus simplement? Parce qu'on dit attendre A et attendre B en parallèle, quand tout ça c'est fini, émettre O, puis plus rien faire jusqu'à ce qu'il y ait R, et puis boucler là-dedans. Donc c'est tout bête. Et alors là, il y a une différence absolument fondamentale entre ça et ça. Regardez bien. Là, il y a marqué dans la doc, attendre A et B, puis émettre O à chaque fois qu'on a R, vous prononcez les lettres A, B, R, O une fois. Là, elles sont marquées une fois. Là, elles sont marquées plein de fois. Donc ça, c'est la méthode classique qu'on apprend à l'école. C'est la méthode qui marche pas. Alors, vous avez qu'à voir, vous mettez 3 boutons ABC au lieu de 2. Et là, watcha, un cube, vous en mettez 4. C'est exponentiel. Si vous mettez N boutons, vous avez 2 puissance N états. En STRL, ben, vous avez juste à rajouter ça. Await C. Bon, ça, c'est exponentiel, OK. C'est, tout le monde reconnaîtra cette image s'il a du Tintin sérieusement. Et ici, la seule chose que j'ai à faire, c'est ça. Donc, cette abstraction, le fait de pouvoir la rendre concrète, le fait d'avoir le langage qu'il faut, permet de transformer des programmes gigantesques exponentiels en des programmes très simples, linéaires. Passer de l'exponentiel au linéaire, c'est très rare qu'on puisse faire ça. Alors, une autre façon de l'écrire, c'est ce qu'on appelle les automates hiérarchiques. Et là, je pense que on devrait faire absolument des vraies chaînes de Markov hiérarchiques, ce qu'on sait faire aussi. Où vous avez, en fait, vous pouvez englober, vous prenez d'abord attendre A, attendre B et mettre O, vous mettez ça dans un petit automate. Et autour, vous mettez, ben, à chaque R, on recommence tout ça. Bon. Et, ben, c'est comme ça qu'on fait maintenant en grand, dans des tas de vrais systèmes. Alors, je vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous montrer des vrais systèmes après. Alors comment est-ce qu'on traduit ça? Eh bien, on a traduit ça. Alors, il a fallu pas mal d'années pour comprendre comment bien faire. Puis un jour, le déclic est venu en Inde. en Inde, où on s'est aperçu qu'on pouvait traduire très directement les programmes en circuit électronique et que l'exécution de mon coureur à pied, elle prend pas zéro, elle prend une nanoseconde. Bon, c'est pas trop mal. On peut aussi le faire en logiciel. Alors, en fait, on pouvait avoir une traduction qui est quasi linéaire entre ça et un circuit électronique. Donc ça, c'est des portes logiques. Hein. Ça, c'est « et », ça, c'est « où », et le petit rond, c'est « non ». Je vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se construit par morceaux. C'est vraiment des maths dures. On a fait maintenant la preuve en machine du fait que cette traduction va marcher. C'est 2 ans de boulot et j'enseignerai ça l'année prochaine. Bon, très bien. Est-ce qu'on a compris pourquoi en Inde? Parce qu'on a compris quelque chose qui est très important pour la musique. Moi, je me suis rappelé d'une chose en musique, c'est que je joue de la flûte à bec et j'ai un traité de Hauteterre le Romain dans lequel il y a marqué « Ce qui est important, c'est que chaque note doit avoir sa naissance, sa vie et sa mort. » C'est particulièrement important pour les vents, ça, hein, parce que le souffle, c'est... Donc chaque c'était aussi de la musique pré-baroque, donc chaque note doit avoir sa naissance, sa musique et sa mort. J'étais en Inde. Or, en Inde, les trois dieux s'appellent Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et Shiva, le destructeur. OK ? Et en fait... Quand vous regardez ça, il y a des instructions qui détruisent, comme « abort when », ça c'est Shiva. Il y a des instructions qui démarrent, point virgule, ça va démarrer la suite, ça c'est Vishnu. Et puis Brahma, c'est le truc qui démarre au début du programme. Et donc c'est vraiment comme ça que c'est venu, l'inspiration, c'est très rigolo. C'est en discutant sur la mythologie indienne, on s'est dit « bah bien sûr ». Et donc on a passé, on a jeté au panier 15 ans de maths d'abord pour trouver la bonne solution. Alors maintenant ça sert à pas mal d'endroits. Il y a d'autres langages, je vais pas vous les montrer là. Voilà, il y a deux grands langages en France. Il y a SRL qui a en particulier servi à faire les rafales, mais beaucoup d'autres choses. Et Lustre, un langage collègue sur un style différent mais avec les mêmes idées. Et si vous voulez dans un Airbus, c'est entièrement fait avec ça. Totalement, il n'y a pas de programme normaux dans un Airbus, c'est totalement fait avec ça, c'est des programmes très compliqués, hein, et très sensibles au rythme, par exemple, justement, quand on absorbe, une des grandes forces d'Airbus, c'est d'absorber très fort, très très bien les rafales de vent. Ben, le rythme des rafales de vent, il n'est pas prévisible, et il est compliqué. Alors moi, j'avais donc au début, il y avait ces deux langages, donc moi j'avais proposé, bien sûr, de faire, pour les départager, de faire un combat aérien entre un Rafale et un Airbus, ils n'ont pas voulu. On a fait autre chose, on les a unifiés. Et je vous présente un langage que je montre pour la première fois à Philippe, mais qui est fait justement. L'unification absolue est mathématiquement parfaitement définie et parfaitement implémentée de deux choses qui sont les automates hiérarchiques dont j'ai montré, là, le cours appuyé, et là-dedans, de la théorie du contrôle et du son continu. Donc on peut produire des systèmes arbitraires de son continu, arrêter, revenir, recommencer, etc., de façon parfaitement propre, avec une génération de code qui est extrêmement efficace, et bien plus rapide, bien plus efficace que ce qu'on faisait avant. Voilà. Méfiez-vous des imitations, comme on disait sur tous les objets quand j'étais petit, parce qu'il y a beaucoup de manières de faire ça faux, qui sont employées à très grande échelle, en particulier dans les outils industriels les plus réputés, qui font ça faux. Bien. Voilà. Donc maintenant, on va voir ça. Pourquoi ça fait de la musique aussi? Enfin, les mêmes idées, parce que après, quand on parle aux musiciens, on s'aperçoit qu'on est tout petit, parce que ils mettent la barre beaucoup plus haut que dans la bionique. Hein.
Nous venons d'écouter Gérard Berry, professeur au Collège de France, et maintenant Archia Comte, chercheur informaticien qui a développé le système Antescofo et cofondateur de la start-up Antescofo.
Bonjour mesdames et messieurs, donc je ne vais pas faire beaucoup d'introductions. Vous vous demandez c'est quoi le rapport de tout ça avec la musique, c'est ce que je me demande aussi, mais je vais essayer de vous convaincre. Donc, je vais vous parler du logiciel Antescofo. qui essaye de coordonner le temps musical entre l'humain et la machine. Donc, par exemple, dans l'extrait de violon avec Hesson sur la pièce de Philippe Manoury que vous avez entendu, vous avez compris que la machine, en fait, est capable de comprendre le tempo du musicien et l'utiliser pour l'interpréter sa propre partie. En fait, il s'agit du système antescofo. Donc, puisqu'on a entendu beaucoup de musique, je vais vous faire écouter une sorte de musique un peu différente pour illustrer bien mes propos. Donc, sur cette vidéo, nous allons voir un pianiste vraiment amateur, qui joue pas bien, qui va jouer un concerto chez lui à la maison. Donc normalement, on ne peut pas jouer des concertos à la maison parce qu'on n'a pas des orchestres dans notre salon. Donc lui, il va utiliser un iPad qui a un enregistrement de l'orchestre dedans. Il va choisir l'endroit où il veut jouer et il joue. C'est la bande d'orchestre qui est en train d'adapter à lui quand il joue. Ça veut dire que la tablette est en train d'écouter en fait ce qu'il est en train de jouer et il adapte en fait son, l'interprétation d'un banc de son comme les CD que vous avez qui est souvent figé dans une tyrannie de temps absolue. Ici on essaie de le casser en fait, et rendre l'interprétation de cette pièce disponible pour ce pianiste amateur. Évidemment, s'il fait des fausses notes, l'avion ne peut pas arrêter, on continue. Donc, comme s'il y a deux musiciens qui jouent ensemble. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Donc ça c'est le... Donc je pense que vous avez compris un peu l'idée. Donc déjà dans cet exemple extrêmement simpliste, en fait il y a plusieurs temps qui sont en jeu. Donc il y a évidemment les temps symboliques d'une partition de musique, parce qu'il est en train de lire une partition qui a été écrite par un compositeur, en l'occurrence ici Mozart. Et ensuite, il y a le temps du signal audio, c'est le bande-son, en fait, enregistré par un orchestre. Donc il s'agit des échantillons sonores, en fait, avec une représentation complètement différente et une échelle de temps très très différente. Ensuite, évidemment, il y a une machine qui est sur le piano, qui a ses propres temps multiples. Il y a le temps de calcul, ou plutôt les temps de calcul. Il y a le temps qui est avec un horloge différent pour sortir le son des haut-parleurs pour que ça arrive au bon moment. Il y a le temps d'affichage, parce qu'il y a une partition qui est affichée et que vous avez vu qu'il tourne la page pour le musicien. Il y a aussi le temps qu'il faut pour aller dans le mémoire de l'ordinateur, lire les informations nécessaires, à temps pour que le musicien l'entende aussi à temps via d'autres procédés. Et ensuite, il y a les temps humains. Donc, il y a le temps en fait, que le musicien interprète, utilise pour fournir son interprétation que Philippe a très bien parlé, et moi j'ajouterai une petite touche aussi, la peau du temps dont Gérard Griset, le compositeur français, parle très bien dans un de ses articles qui a inspiré le titre de cet exposé, qui est un temps presque mystique, qui est le temps de la perception de la musique et comment en fait on aperçoit le passage du temps. Et donc, pour aborder cette question, pour réunir, disons, tous ces temps difficiles et hétérogènes, il faut oublier les machines, il faut regarder l'homme. Donc, quand vous allez à un concert, sans ordinateur hein, pour l'instant, bah, il y a souvent plusieurs musiciens qui jouent, ici c'est Koto Arditi, et ils ont chacun sa propre partition. S'il s'agit d'une pièce que vous avez connue auparavant, un auteur de Mozart ou Beethoven, que vous connaissez même par cœur, vous savez pertinemment ce que vous allez entendre, mais vous savez pertinemment que ça va être différent. Chaque musicien a sa propre partition, mais on attend un résultat déterministe. On veut entendre la pièce qu'on connaît. Malgré ce déterminisme global de la pièce, l'interprétation va être différente. Qu'est-ce qui se passe sur scène ? Chaque musicien interprète sa propre partition en coordination avec les autres musiciens sur scène et en synchronisant en temps réel sur scène sa propre partie pour avoir ce résultat cohérent et déterministe, même s'ils sont en train de complètement changer certaines natures de la pièce pour fournir une interprétation. Donc, en fait, je suis en train de vous parler d'un phénomène musical banal, mais avec des termes informatiques, pour vous montrer à quel point, en fait, ce phénomène est en analogie avec des ailes d'avion et des rafales dont Gérard Berry parlait. Et dans le contexte pratique, par exemple, de concert de ce soir, nous avons une association des ordinateurs avec des musiciens humains, donc typiquement Hesson ou les deux pianistes avec des ordinateurs qui sont derrière à la régie. Et donc ça, c'est ce qui se passe en temps réel, c'est le calcul temps réel ou l'interprétation musicale. Mais avant cela, il y a une phase de composition, il y a le temps de composition qui est en analogie avec la programmation. Donc, si vous voulez, à une époque, on écrivait des partitions comme celle de gauche. Aujourd'hui, on utilise toujours les mêmes procédés, mais les langages ont évolué pour accepter d'autres types d'expressivité, notamment avec les machines. Et donc, ces deux phases, on ne peut pas les dissocier. Donc, de même façon que l'avion qui se trompe pas pendant le vol, il se trompe pas, il s'arrête pas parce que quelqu'un a bien programmé le comportement de l'avion malgré le fait qu'on peut pas savoir comment le vent va se comporter. Il y a un compositeur aussi qui a composé une pièce en anticipant plusieurs situations et ensuite ça se réalise sur scène. Donc ça, c'est l'analogie entre les deux. Alors le contexte informatique de ce type d'interaction musicale que je viens de vous décrire est le suivant. Donc, la machine, tout d'abord, doit être capable d'écouter, entendre la musique. Donc, on doit pouvoir simuler une sorte d'oreille artificielle pour la machine, de même façon que les musiciens, ils s'écoutent, en fait, pour pouvoir synchroniser. Et en deuxième lieu, il faut qu'en fonction de cette perception artificielle, il faut qu'il soit capable de réagir pour entreprendre et interpréter ses propres actions. Donc ça, c'est la partie vraiment système temps réel tel que ça se trouve sur les avions. Alors, en fait, pour vous dire, nous avons beaucoup de mal souvent à décrire l'essence même de système Antescofo. En discutant avec un de mes collègues ce matin, il m'a donné une description vraiment intéressante. Et pour ça, je vais revenir encore sur l'humain. Quand les musiciens humains jouent ensemble, il y a un phénomène extrêmement important qui est le phénomène d'anticipation. Donc quand il y a quatre musiciens qui jouent, je crois moi, le grand quatuor de Beethoven, qui est un soufflet de fugue, il y a tellement de phrasés entremêlés qu'on ne peut pas dire qu'ils sont en train de jouer ensemble parce qu'ils ont une écoute parfaite. D'ailleurs, l'écoute parfaite n'existe pas. Ils sont capables d'anticiper, ils sont capables de finir les phrases ensemble et cette capacité d'anticipation est extrêmement importante. Et par ailleurs, le compositeur qui est en train de composer chez lui pour un orchestre de 150 personnes, il n'a pas un orchestre à sa disposition pour l'écrire, il est en train d'anticiper comment son écriture va s'incarner sur scène. Donc, quelque part, en mélangeant en fait une capacité d'écoute, de perception artificielle et en donnant à la machine la capacité de réagir à interpréter, l'enjeu principal, en fait, pour Antescofo devient de travailler avec l'anticipation, de pouvoir décrire l'anticipation au moment d'écriture ou programmation ou composition, et pouvoir gérer l'anticipation au moment d'exécution. Et cet phénomène d'anticipation existe dans toute forme de musique et toute pratique musicale de toutes les cultures. Alors, Une fois qu'on sait que c'est l'enjeu principal, d'ailleurs le hanté de Antescofo vient de anticipation, donc c'était vraiment au corps de notre projet. Pendant des années, en fait, l'erreur que nous, les informaticiens dans le domaine musical, on commis, c'était de dire que pendant des années, en fait, on a essayé d'imposer nos langages aux musiciens, aux compositeurs. Et j'ai envie de dire que finalement, ils ont réussi à nous imposer leur langage. Donc, il y a eu un moment, en fait, dans les années 2007, quand j'étais en études, disons, je travaillais principalement sur la capacité d'écoute et on essayait de faire une machine, en fait, qui a une écoute parfaite. Donc, si vous voulez, à un moment donné, on s'est rendu compte que la machine ne peut pas avoir une écoute parfaite, surtout pendant un concert. Et donc, si on doit compter sur une écoute parfaite, on est sûr que le concert va se planter. Et souvent, c'est ce qui se passait avant 2007. Je peux le dire tranquillement maintenant que je suis sorti de l'IRCAM. Et donc, on s'est dit qu'il faut qu'on laisse la machine se tromper. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si la machine se trompe? Si on doit accepter que la machine se trompe, comme des collègues musiciens qui doivent accepter qu'ils vont se tromper, mais ils ne vont pas pourtant cracher le concert, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a décidé de voir comment ils travaillent ensemble. Et petit à petit, l'idée, en fait, d'inventer un langage qui permet au compositeur d'exprimer l'anticipation et la structure musicale s'est imposée. Et c'était à peu près à ce même moment que j'ai vu le même diaporama que Gérard vous a montré avec les musiciens ici au Collège de France. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des structures, en fait, d'expressivité des langages qui étaient extrêmement similaires. Et on a commencé à construire un langage. Et donc, le système Antescofo est un langage informatique qui permet d'écrire et d'écrire comment le temps passe. Donc, comment le temps passe, c'est il y a aussi une erreur, comment les temps passent. Parce qu'il y a le temps strié, il y a le temps lisse, il y a aussi le hors-temps. C'est un phénomène assez particulier en musique, même en musique classique, par exemple, les notes appoggiature, on peut les considérer hors-temps. C'est des événements qui existent dans l'espace musical, mais qui ne contribuent pas à la temporalité de l'interprétation. Il faut les écrire et pouvoir, le moment où on est en train d'écrire ces différents temps, anticiper comment ils vont sonner de la même façon qu'on est capable d'écrire pour 150 musiciens chez soi. Ensuite, il faut assurer que ce qui est écrit et ce qui va être entendu sur scène, malgré les fautes de la machine et aussi malgré les fautes des musiciens humains, même s'ils ne font jamais des fautes, on le sait, mais surtout malgré les variations imprévues dans l'environnement, comme un changement de tempo, comme des changements de dynamique, et évidemment être tolérant aux fautes. Donc le langage Antescofo, c'est un langage qui est proche aux structures que les compositeurs ont l'habitude de décrire de la musique électroacoustique avant nous. On a essayé juste de leur donner des outils, en fait, pour organiser le temps. Le compositeur devient un programmeur, même s'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Et la notion de la partition musicale, c'est exactement comme Philippe décrit comme une partition virtuelle, mais c'est une partition virtuelle qui réunit à la fois la partition pour l'être humain et aussi la partition musicale pour l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir anticiper comment le temps va se passer, par exemple pour un grand orchestre, vous regardez un grand partition d'orchestre, vous avez tous les instruments l'un après l'autre. Ici c'est pareil, en peau, en étant malin, avoir une écriture du temps, en fait, où au moment d'écriture sur papier, ces temps peuvent coexister et qu'on puisse anticiper comment ils vont se sonner, même si les natures du temps de calcul pour la machine et comment le temps passe, le temps strié, le temps pulsé pour le musicien humain ne sont pas pareils. Et évidemment, ce langage a des constructions qui ressemblent à pas mal d'engages, mais il y a énormément de structures temporelles qui sont peut-être la particularité de notre langage. Et notamment, il y a un système d'héritage temporel qui est extrêmement important. Parce que dans l'exemple de concerto piano qu'on vient de voir, Je vous ai décrit en fait les différents temps en fait qui coexistent, et en fait ils doivent tout le temps communiquer entre eux pour que l'affichage soit bien, le son sort bien, le micro entend bien le musicien, que la machine fasse le calcul pour l'oreille artificielle, etc. Et en fait, pour coordonner ces différents temps, il faut qu'on puisse hériter ou passer d'un temps à l'autre. Et ça, on peut le faire facilement dans les programmes en Tescofo. Donc ici, vous voyez un programme extrêmement bête qui fait une ligne droite. C'est ce qu'on appelle un processus qui, en fait, c'est pour nous, en langage musical, c'est comme un loop, c'est comme un boucle musical, en fait. On va lui demander chaque 0.1 pulsation, en fait, d'augmenter un peu sa valeur. Et si on l'imprime, en fait, il va donner une ligne, tout simplement. Ce que je peux faire, est-ce que je peux dire que ce processus qu'on vient en nous, son temps, on peut lui dire comment son temps va passer. Donc ici, en fait, je vais lui dire que, écoute, avant ton temps était en train de passer de façon linéaire, maintenant ton temps va se passer en suivant ce courbe-là. Et si je l'exécute, en fait, il va me donner une structure telle qu'elle, un peu courbée. Donc on voit qu'en fait, déjà, on est dans une relation qui n'est pas 100% linéaire. Et on peut faire... Et évidemment, on va lui dire que ton temps, en fait, passe tel que c'est écrit au-dessus. Et encore, on peut aller encore plus loin et associer le temps d'une troisième exécution de même processus, pourtant très simple, avec le temps de ce courbe qu'on vient voir ici. En fait, ça nous produit d'autres résultats. En fait, ici, je suis en train de vous montrer la simplicité avec laquelle les compositeurs, en fait, ils peuvent composer des héritages temporels et des structures hiérarchiques temporelles telles qu'ils ont pourtant l'habitude de faire, mais qu'avant, avec les langages habituels, c'était extrêmement difficile. Donc, c'est un peu comme le programme Abro dont Gérard montrait, qui, avec les automates, devient très, très compliqué, mais que juste en regardant comment les compositeurs les expriment, en fait, on peut le rendre plus facile avec des langages dédiés. Et donc... nous avons produit un langage en fait qui permet aux compositeurs de décrire ces différents temps ensemble. Donc vous avez vu pas mal de partitions de Philippe Manoury. Ici on voit une partition de la compositrice Julia Blondeau de la pièce Nachtleben de 2014. C'est une partition où les trois portées en haut sont pour des musiciens humains et les parties en bas, c'est une description en fait de la partie électronique qui ont été réalisées dans Tescofo. On voit très bien en fait qu'il y a à la fois le temps pulsé, le temps lisse, le temps continu ou aussi des chiffres ou d'autres indications qui coexistent. Ensuite, se pose la grande question de comment prédire ou anticiper les temps. Parce que, comme je vous ai dit, on peut avoir un langage extrêmement intelligent qui nous permet d'imaginer et augmenter notre expressivité. Après, une fois qu'on va sur scène, il faut pouvoir anticiper, prédire la relation entre tous ces différents temps pour que les choses se passent au bon moment ou au meilleur moment possible dans le contexte. Sans rentrer trop dans les détails, il s'agit d'un phénomène, encore une fois, on va oublier les machines, on va regarder la nature. La synchronie entre les différents horloges, c'est notre affaire quotidienne et ça existe dans la nature, dans toutes ses formes possibles. Et c'est un phénomène qui a été étudié au XVIIe siècle par Christian Huygens. Il s'agit de sympathie des horloges. Et donc, pour vous illustrer c'est quoi la sympathie des horloges, je vais juste vous montrer une petite vidéo qui explique tout. Donc, on va lancer plusieurs horloges, ici, des métronomes. Je ne peux pas monter plus. Donc, ils sont complètement désordonnés. Maintenant, on va les mettre sur une surface où ils vont être mécaniquement liés. Et en espace de quelques secondes, ils se synchronisent. Mesdames et messieurs, sympathie des horloges découvertes par Christian Huygens. En fait, dans le système Antescofo, on utilise le même phénomène. Il y a plusieurs horloges, vous avez vu tous les différents types d'horloges, pour pouvoir surtout anticiper l'horloge humain, parce que pour pouvoir interpréter un morceau de musique, il faut qu'on puisse prédire ou anticiper qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. On utilise des procédés similaires, on voit très bien que ça converge. Je ne suis pas biologiste pour savoir exactement pourquoi, mais on a un procédé similaire avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui, en écoutant les musiciens, essayent de prédire l'avenir et faire le meilleur possible en fait pour qu'ils soient tout le temps ensemble. Et cette phénomène d'anticipation dans le système Antescofo, ça se passe à chaque instant et sur toutes les différentes échelles du temps qui est décrit dans la partition. Alors, peut-être pour terminer, donc aujourd'hui nous sommes sortis du laboratoire, nous avons eu énormément de chance de travailler avec beaucoup de compositeurs et beaucoup de musiciens, dont Philippe, qui ont largement contribué à la maturité de notre système. Et si vous avez vu qu'aujourd'hui, les pianistes amateurs vont pouvoir faire jouer des concertos chez eux, c'est pas parce qu'on a travaillé pour arriver avec des amateurs, c'est simplement parce qu'on a pu travailler avec des compositeurs, des musiciens de haut niveau qui ont toujours poussé les frontières plus loin. Et aujourd'hui, on est capable de faire des choses comme celle-ci. Donc ici, c'est pareil. C'est l'orchestre qui est en train de s'adapter à la chanteuse. Ouais, et en fait l'orchestre est sur l'iPhone, donc elle est en train d'écouter l'iPhone. Donc nous sommes en train de tester ça aujourd'hui avec des centaines de musiciens à Paris. Ah oui. Avec des centaines de musiciens à Paris, qui va être bientôt disponible pour tous les musiciens sur toute forme de répertoire. Ce travail, évidemment, n'était pas possible sans la contribution de mes collègues, et notamment Philippe Cuvillier, Jean-Louis Javito, José Echeveste, mais également Julia Blondeau, la compositrice dont on a vu la partition. J'aimerais bien, pour terminer, dédier ma portion de ce séminaire à la mémoire de David Wessel, qui nous a quittés il y a quelques semaines et sans qui je ne pourrais jamais réfléchir à faire de la recherche sur le sujet de l'anticipation. Je vous remercie.
Du Collège de France, vous venez d'écouter le 16 juin 2017 Philippe Manoury, Gérard Berry et Archia Comte. Aujourd'hui, problématiques liées au temps réel dans la musique. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Manoury et les références des extraits sonores, ainsi que les articles liés à l'œuvre de Gérard Berry et d'Archia Comte. La leçon inaugurale de Philippe Manoury publiée chez Fayard sous le titre « L'invention de la musique ». Je rappelle également la musique du temps réel, entretien avec Philippe Manoury de Omer Corlet et Jean-Guillaume Lebrun. Le compositeur a également publié avec Pierre Boulez et Jean-Pierre Changeux « Les neurones enchantés, entretien sur le cerveau et la musique » chez Odile Jacob. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France, à Virginie Chauvetet et aux équipes web de France Culture et du Collège de France. Un grand merci à Anne-Lise Signoret de la bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.